Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie ou de certains qui ont réalisé des actions fortes. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Nous allons aujourd'hui à la découverte d'une personne qui a été très en avance sur le statut de la féminisation. C'est Marie Suize, ou la soif de l'or. C'est grâce à son frère que l'on connaît son histoire. Marie Suize est née en 1824 à Thônes, où ses parents tiennent une auberge. À 22 ans, elle monte à Paris. Embauchée comme femme de ménage dans un journal, elle tombe sur un article décrivant la ruée de l'or en Californie. Le soir même, elle en parle à son frère qui travaille lui aussi dans la capitale et tous deux décident de tenter leur chance. En 1848, près de Sacramento, un charpentier a trouvé du métal jaune dans le biais d'une scierie. Aussitôt, la nouvelle se répand à la vitesse de l'éclair. D'abord les Américains, puis les vagues d'immigrants venus du monde entier s'installent le long des cours d'eau pour se livrer à leur paillage. Début juin 1850, Marie et son frère embarquent sur un trois-mâts dans le port du Havre. Prudente, la jeune femme qui s'est fait couper les cheveux porte des habits masculins et se déclare à bord voyageur de commerce. Le voyage dure 5 mois de traversée par le Cap Horn. Arrivé à San Francisco, il découvre un rassemblement de tentes et de baraques en bois. Les Savoyards ne s'y attardent pas. Ils prennent un bateau à vapeur, puis une diligence, marchent à dos de mule, et enfin ils atteignent les bords de la rivière Yuba, qui dégringole des contreforts de la Sierra Nevada et dont les berges alluviales nourrissent de folles espérances. L'ambiance est fébrile, et Marie comprend illico qu'il ne faudra pas baisser la garde pour se faire une place dans cette ruche turbulente où règne le chacun pour soi. D'ailleurs, la législation est simple. Premier arrivé, premier servi. D'emblée, elle attire la curiosité des orpailleurs, qui n'ont pas l'habitude de voir une femme s'aventurer sur le terrain de leur prospection. Marie Suize s'installe sur le bord de la rivière et plante dans le gravier 2 piquets. Un jeune blanc-bec maigrichon prétend occuper les lieux. Elle le remballe sans ménagement sous les yeux ébahis de son frère. Formés de sable grossier, les placés d'alluvion sont exploités de façon rudimentaire à la pelle et à la battée. Récipients en métal que l'on agite de longs mouvements circulaires destinés à expulser les sédiments les plus légers. Ne reste plus que le sable et les pépites dorées. Retroussant ses manches, Marie se met à la tâche et s'aperçoit rapidement que les vêtements féminins qu'elle a achetés à San Francisco ne sont pas du tout adaptés à ce genre d'exercice en plein air. Alors, sans hésiter, elle endosse une tenue d'homme. Veste de grosse toile, bottes longues, large chapeau noir, un pantalon et son ceinturon auquel elle fixe un revolver au cas où. Du lever au coucher du soleil, elle manie la pelle et la pioche, trouve des pépites qu'elle négocie âprement, se fait bâtir une maison. Des pois, des haricots rouges constituent l'essentiel de sa nourriture, agrémentée parfois de la viande d'un chevreuil abattu par un trappeur. Quand elle estime avoir exploré une zone, elle s'installe un peu plus loin. Chacun veille sur son territoire avec un soin jaloux et les conflits sont légion. Marie tient tête aux hommes avec une énergie farouche et gagne en réputation. Quand une pétition circule, elle la signe du nom que lui ont donné les mineurs, Marie Pantalon. Son frère et elle amassent beaucoup d'argent et recrutent des ouvriers asiatiques que la jeune femme dirige d'une main de fer. Après le temps de leur paillage vient celui de la mine, des galeries étayées de bois, de la poussière. Au prix d'un labeur épuisant, les affaires vont bon train pour la Savoyarde, mais sa tenue lui cause des soucis. Un jour qu'elle se rend à la banque en ville, on lui colle une amende, la loi californienne interdit en effet le travesti. Elle proteste, en vain, on parle d'elle dans la presse locale et nombreux sont ceux qui prennent sa défense. À la 3e infraction relevée, pour le même motif, elle se présente en habit de travail devant la cour de district de Jackson, qui l'autorise à porter le pantalon dans le cadre de son activité. Féministe avant l'heure, elle remporte une victoire, conquiert une forme de liberté et très vite sa renommée s'étend largement au-delà des frontières du comté d'Amador. En 1862, son frère, les poches pleines, décide de regagner sa Savoie natale, devenue depuis française. Marie, elle, n'entend pas le suivre. Elle n'oublie pas ses racines, mais la Californie est sa terre d'adoption. C'est ici que sa pauvre vie monotone a pris un nouveau départ et qu'elle a fait fortune en un temps record. Certes, au prix d'un travail acharné, elle en convient, avec de la chance. Pour elle, le rêve californien existe. 5 années passent. Elle change de métier et achète à la sortie de Jackson un ranch dans lequel elle cultive des arbres fruitiers et des pieds de vigne par milliers. Son intendant est un jeune Charentais et devient-il son amant? Nous ne le saurons jamais. En tout cas, les récoltes doivent être abondantes sous ce climat doux puisque Marie acquiert bientôt un magasin à Virginia City, petite ville réputée pour ses mines d'argent, et quelques années plus tard, un autre à San Francisco en plein essor. Celle qui a troqué ses longues bottes de cuir et son pantalon pour une robe est sans doute la première femme en Californie à vendre son vin et son eau-de-vie. Sa popularité aidant, elle engrange un joli magot et vers 1880, épuisée, se retire dans son ranch. Que faire de tout cet argent? Marie Suisse n'a pas de descendance. À la folie de l'or succède l'ivresse de la spéculation financière. Un désastre, ruiné. Une pneumonie l'emporte au cours de l'hiver 1892. Le 14 juillet 2004, à l'occasion de son 150e anniversaire de la création du comté d'Amador, une pierre tombale est posée dans le cimetière de Jackson en mémoire de Madame Pantalon. Une habitante de Thône n'hésite pas à faire le déplacement pour assister à la cérémonie. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann. Ces Savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et surtout, à une prochaine fois.